Chapitre 56. Se fondant sur les Fremen, les planétologistes voient la vie comme un ensemble de manifestations de l'énergie et cherchent les relations dominantes. Par petits morceaux, fragments et parcelles qui évoluent vers une compréhension générale, la sagesse raciale Fremen est transcrite en une nouvelle certitude. Ce que les Fremen possèdent en tant que peuple, n'importe quel peuple peut le posséder. Il lui faut seulement développer un sens des relations d'énergie. Il lui faut seulement observer que l'énergie absorbe les structures des choses et construit avec ces structures. La catastrophe de Dune, d'après Arkalada. Le siège de Tuek sur le bord intérieur du faux mur. Alec se tenait dans l'ombre de l'éperon rocheux qui dissimulait l'accès principal, attendant que ceux du siège décident de lui accorder asile. Son regard se porta vers le nord, se promena sur le désert, puis sur le ciel gris-bleu du matin. Les contrebandiers avaient été surpris d'apprendre que lui, étranger à Dune, avait capturé un ver et l'avait chevauché. Mais Gurney avait été tout aussi surpris de cette réaction. La chose n'était pas un exploit pour un homme agile qui y avait assisté tant de fois. À nouveau, les yeux de Alec coururent sur le désert, sur ce champ argenté de rocs scintillants, sur les étendues vertes et grises où l'eau avait accompli sa magie. Tout soudain, cela lui apparaissait comme une fragile réserve d'énergie, de vie, menacée par un brusque changement, un glissement de la structure de la réalité. Il connaissait l'origine de cette réaction. Là en bas, au niveau du désert, régnait une activité fébrile. Des barriques de truites mortes étaient roulées jusqu'à l'intérieur du siège où le roux serait distillé. Il y en avait des milliers. Elles avaient été attirées par une fuite d'eau. Et c'était cette fuite, précisément, qui avait précipité le cours des pensées de Alec. Par-delà les champs du siège, le regard de Alec fut attiré par le canat d'où s'était échappée l'eau si précieuse. Il avait remarqué des trous dans les parois de pierre. Il avait vu les fissures dans le contrefort par lesquelles l'eau s'était répandue dans le sable. Qui avait creusé ces trous? Certains s'étendaient sur plus de 20 mètres de long dans les sections les plus vulnérables du canat, aux endroits où des coulées de sable mou se perdaient dans les cuvettes où l'eau avait disparu. Ces cuvettes qui s'étaient emplies de centaines de truites en quelques instants. Les enfants du siège étaient en ce moment occupés à les capturer et à les tuer. Des équipes de réparation étaient à l'œuvre sur les parois rompues du canat. D'autres arrosaient les plantes les plus fragiles avec ce qui restait de l'eau d'irrigation. La gigantesque citerne du siège de Tuek, approvisionnée par le piège avant, avait été fermée à temps, empêchant l'eau de se perdre dans les canats et les pompes solaires déconnectées. L'eau d'irrigation provenait des dernières flaques au fond du canat et de la citerne intérieure. La chaleur du soleil augmentait d'instant en instant et le cadre de métal du seau derrière Alec émit des craquements en se dilatant. Paraissant obéir à ce simple son, les yeux de Alec se portèrent sur la plus lointaine courbe du canat, où l'eau s'était déversée le plus impudemment dans le désert. Les jardiniers optimistes du siège avaient planté un arbre très particulier à cet endroit. Et cet arbre était condamné si l'eau ne circulait pas à nouveau bientôt dans le canat. Le regard de Alec demeura longtemps fixé sur l'absurde feuillage du saule qui dansait dans le vent et le sable. L'arbre symbolisait cette nouvelle réalité dans laquelle il était pris, lui, tout comme Arrakis. L'un et l'autre, nous sommes des étrangers, songea-t-il. Il fallait bien longtemps aux gens du siège pour prendre une décision. Mais ils savaient qu'ils avaient de l'emploi pour ceux qui connaissaient l'art du combat. Les contrebandiers avaient toujours besoin d'hommes de valeur. Mais Alec n'entretenait plus d'illusions à leur égard. Les contrebandiers de ce temps n'étaient plus ceux qui lui avaient donné asile des années auparavant, lorsqu'il avait fui, après le démantèlement du fief de son duc. Non. Ces gens appartenaient à une race nouvelle, prompte à chercher le profit. Il regarda encore le saule absurde. Il lui vint alors l'idée que les tempêtes de cette réalité nouvelle pourrait bien disperser aux quatre horizons ses contrebandiers et leurs amis. Elle pourrait détruire Stilgar et sa fragile neutralité, et balayer avec lui toutes les tribus qui demeuraient encore fidèles à Alia. Ils avaient tous été colonisés. Alec avait déjà assisté à cela. Il avait connu ce goût amer sur son propre monde. Maintenant, il distinguait clairement ce qui se passait ici. Il reconnaissait les maniérismes des Fremen des cités, le modèle des faubourgs, la façon dont les traits les plus caractéristiques du siège rural étaient gommés jusque dans les refuges les plus secrets des contrebandiers, comme celui-ci. Les districts ruraux étaient devenus autant de colonies des centres urbains. Leur population avait appris à supporter un joug matelassé, sous l'empire de la cupidité, sinon des superstitions. Même ici, surtout ici, les gens avaient l'attitude des êtres soumis et non pas celle des hommes libres. Ils étaient méfiants, secrets, fuyants. Toute manifestation d'autorité provoquait le ressentiment, quelle que fût l'autorité, la régente, Stilgar, le conseil du siège. « Je ne peux pas leur faire confiance, » se dit Alec. Il ne pouvait que les utiliser et entretenir leur méfiance envers autrui, ce qui était triste. C'en était fini des vieilles concessions mutuelles des hommes élevés dans la liberté. Les usages anciens avaient été ramenés à des paroles rituelles, et leur origine s'était perdue dans les mémoires. Alia avait bien fait son travail, punissant ceux qui la combattaient, récompensant ceux qui la soutenaient, redistribuant les forces impériales au hasard, tout en dissimulant les éléments majeurs de son pouvoir impérial. Les espions. Par les dieux inférieurs, elle avait tant d'espions. Alec pouvait presque matérialiser le jeu mortel de mouvements et de parades par lequel Alia avait espéré maintenir l'opposition en situation de déséquilibre. Si les Fremen restent assoupis, se dit-il, elle peut gagner. Le seau d'entrée s'ouvrit avec un craquement sonore. Un serviteur du nom de Mélidès apparut. Il était petit, avec un corps replet posé sur de grêles jambes d'araignée, et le distil ne faisait qu'accentuer sa laideur. « Vous avez été accepté, » dit-il. Alec devina la ruse et la dissimulation dans sa voix. Il comprit qu'il ne bénéficierait ici que d'un asile de courte durée. Jusqu'à ce que je puisse m'emparer d'un de leurs ornis, se dit-il. Transmets ma gratitude à ton conseil, dit-il. Et il songea alors à Esmar Tuek, qui avait donné son nom à ce siège. Esmar, mort par la trahison, aurait tranché la gorge de ce Mélidès au premier regard.